Bienvenue dans les midis, la suite. Tout à l'heure, à 13h, je recevrai Alexandre Astier pour son film Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbiere. Bonjour.
Bonjour à tous. On s'interroge aujourd'hui sur la postérité des écrivains collaborateurs. Lucien Rebatté, Charles Maurras ou Céline. Ils sont plus de 200 à s'être compromis pendant la guerre et leur présence dans nos librairies provoque toujours le débat. Tristan Rouquet vient de faire paraître une enquête sur ces intellectuels et leur parcours littéraire. Comment leurs œuvres sont-elles parvenues jusqu'au lecteur de 2025? C'est le dossier du Point Culture du jour. Tristan Rouquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et vous venez de faire paraître aux éditions CNRS Les écrivains collaborateurs, engagement, stigmate et postérité. Alors on entend parfois que l'édition française s'étoffe d'inédits et de rééditions de Drieux-La Rochelle, Maurras ou encore Rebatté. Est-ce que c'est selon vous un effet de mode ou bien est-ce que ces écrivains collaborateurs n'ont finalement jamais vraiment quitté les tables des libraires?
C'est les deux à la fois. Il y a un effet de mode parce que si on regarde les années 2010, on va voir qu'il y a une polémique sur la présence de Céline dans le recueil des célébrations nationales. On va voir que Pierre Drieux-La Rochelle entre en Pléiade en 2012, qu'on édite la correspondance de Paul Morin et Jacques Chardon à partir de 2013. Donc il se passe quelque chose au niveau éditorial. Et en même temps, si on regarde l'édition de ces auteurs à la fois reconnus et compromis, on se rend compte qu'à partir de la fin des années 40, on les retrouve sur les étals des libraires sur un temps long.
Alors, dans votre livre, vous vous intéressez à plus de 200 écrivains. Est-ce qu'ils ont des grandes choses en commun, ces 200 écrivains-là?
Alors, dans ces 200 écrivains, si vous voulez, il y a une disparité et des continuités. Une disparité parce qu'on va à la fois retrouver des gens très reconnus dans leur milieu pour leur écriture. Ils sont consacrés, ils sont à l'Académie française comme Abel Bonnard, Abel Hermante, Charles Maurras. D'autres vont intégrer l'Académie française plus tard, comme par exemple Paul Morin. Et il y a des personnes qui sont très peu reconnues, comme des journalistes qui écrivent, comme par exemple Paul Allard, et qui écrivent souvent, surtout, à la faveur de l'occupation, c'est-à-dire dans un moment où la censure pèse sur l'édition et la propagande aussi, c'est-à-dire qu'on va faire monter des personnes relativement peu connues qui, à la faveur de l'occupation, vont pouvoir publier. Donc il y a une différence, mais au niveau général, on va avoir une population principalement masculine. Sur les 227 auteurs étudiés, il y a seulement 7 femmes. Une population plutôt âgée, 49 ans de moyenne d'âge en 1940. Une population aussi très éduquée. Plus de la moitié a le baccalauréat et diplômé du supérieur à l'époque où une classe d'âge a à peu près 2% de chances d'atteindre le niveau de baccalauréat. Une population principalement qui évolue dans les lettres et le journalisme et qui surtout à la veille de la guerre dans les années 30 s'est engagée à l'extrême droite pour la moitié d'entre eux. Donc il y a aussi une forme de disposition à la collaboration, disposition qui n'a rien de mécanique, il faut que ça s'active avec l'évolution de l'occupation, c'est-à-dire la mise en place de la propagande et de la censure.
Mais on l'entend bien dans ce que vous décrivez, ce sont des critères sociaux, mais est-ce qu'il y a aussi des critères esthétiques, en tout cas littéraires, qui les relient?
Alors là aussi, il y a plusieurs sous-groupes à l'intérieur du groupe de 200 personnes étudiées. On va avoir par exemple des personnes qui travaillent à l'art pour l'art, à la littérature pure, qui est principalement éditée chez Gallimard. Ça va être le cas de Pierre Drieux-La Rochelle, ça va être le cas de Marcel Joindot, ça va être le cas de Céline chez De Noël. On va avoir aussi des personnes qui publient beaucoup des ouvrages plutôt populaires. Certaines d'entre eux sont encore connues aujourd'hui, comme Pierre Benoît par exemple, avec des ouvrages comme Königsmark ou encore l'Atlantide. Mais il y a également des écrivains très connus à l'époque qui le sont moins aujourd'hui, comme par exemple Jean Dagrève, qui écrit des ouvrages d'aventure et qui sont pourtant très vendus, très édités. Et puis on va avoir aussi beaucoup de pamphlétaires d'extrême droite, dont certains vont survivre, comme par exemple Henri Coston, qui va animer l'extrême droite intellectuelle jusqu'à la fin des années 90, ou des pamphlétaires d'extrême droite qu'on a complètement oubliés, comme Armand de Chastenay de Puységur, par exemple.
Alors, vous utilisez le mot stigmate dans votre sous-titre. Est-ce qu'ils sont tous marqués, ces écrivains, de la même façon par la collaboration?
Alors, tous ces auteurs sont marqués par le stigmate de la collaboration à travers l'épuration. pour retenir ces 227 auteurs, je suis parti de l'épuration. Tous ces auteurs ont été soit inscrits sur les listes du Comité national des écrivains, c'est-à-dire les écrivains résistants, qui, à l'automne 1944, ont publié dans les Lettres françaises des listes d'auteurs collaborateurs avec lesquels ils ne veulent plus être édités. Ou, s'ils ne sont pas sur ces listes, ils sont accusés par le Comité national d'épuration des gens de lettres, qui est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et qui comprend plusieurs institutions littéraires qui vont juger d'autres auteurs qui se sont compromis. Il y a donc d'une part une épuration symbolique de la corporation du monde des lettres, donc c'est les listes du Comité national des écrivains, une épuration professionnelle encadrée par l'État à travers le Comité national d'épuration des gens de lettres qui peut interdire de toucher des droits d'auteur et de publier jusqu'à 2 ans, et puis enfin une épuration judiciaire, c'est-à-dire que ces écrivains passent en procès. Très concrètement, il y a eu 153 inculpés sur les 227 auteurs considérés, 108 ont eu un procès et 95 ont été condamnés par la justice, donc c'est-à-dire près de la moitié de la population.
Mais alors comment peuvent-ils atteindre la postérité ? On l'entend bien avec ces mesures d'épuration. Je prends un exemple, je crois qu'on va fêter bientôt les 40 ans de la mort de René Barjavel, hein, c'est en novembre. Comment ses œuvres lui ont-elles survécu malgré tout ça ?
Alors, René Barjavel, par exemple, est inscrit sur la première liste du Comité national des écrivains et puis utilise son réseau pour sortir de cette liste parce que la liste est plusieurs fois remaniée. René Barjavel publie ses premiers ouvrages durant l'occupation, il est reconnu là-dessus, il va ensuite être scénariste, et si René Barjavel a pu entrer dans le monde des lettres, c'est parce qu'il s'est lié à Robert de Noël avant l'occupation. Durant l'occupation, il est chef de fabrication chez De Noël. Il est très proche de l'extrême droite. Par exemple, il publie des interviews dans Je suis partout. Il est ami avec Lucien Rebatté. Et après-guerre, il va être à la fois scénariste avec Don Camillo, par exemple, mais également publier des ouvrages de science-fiction et être reconnu comme ça avec La Nuit des Temps. Progressivement, on va oublier ses attaches à l'extrême droite et lui-même va les remanier. Dans un premier temps, il défend beaucoup Céline et minimise son antisémitisme. Et puis, quand il reprendra la plume ou rééditera des livres qui parlaient de Céline, il va supprimer ces passages-là.
Alors, dernière question, Tristan Rouquet. Quel est le rôle des éditeurs aujourd'hui dans ces rééditions ? Est-ce qu'il faut, selon vous, toujours apporter, ajouter un appareil critique pour les lecteurs de 2025 ?
Je pense que l'appareil critique est indispensable à la compréhension de ces auteurs. Ça n'enlève rien à la qualité esthétique de l'ouvrage si on les lit pour cette raison. Mais ça permet au contraire une meilleure compréhension. Donc à ce titre-là, les éditeurs ont une responsabilité là-dedans. Et à minima, cet ouvrage peut être aussi vu comme la préface qui parfois manque aux livres réédités de tous ces auteurs.
Bien, merci beaucoup Tristan Rouquet. Je renvoie à nos auditrices et nos auditeurs à votre ouvrage « Les écrivains collaborateurs, engagement, stigmate et postérité » qui vient de paraître aux éditions CNRS. Merci.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le prix littéraire Les Inrecuptibles 2025 a été décerné hier.
Oui, le magazine a récompensé cette année 4 écrivaines dans 3 catégories. Laura Vasquez a été distinguée dans la catégorie roman français pour son livre Les Forces, paru aux éditions du Sous-Sol. Sephora Pondy s'est vue décerner quant à elle le prix du premier roman pour Aval, publié chez Grasset. Et enfin, 2 autrices ont été récompensées ex aequo pour le prix du roman étranger. L'américaine Sigrid Nunez pour Les Vulnérables chez Stock et la britannique China Patel pour Je suis fan chez Gallimard. Et on vient d'apprendre par ailleurs que le prix Alain Spice du deuxième roman a été décerné à l'écrivain Constantin Alexandrakis pour son roman L'hospitalité aux démons, publié aux éditions Verticales.
Et pour finir, Marie, c'est aujourd'hui la rentrée solennelle des 5 académies.
Oui, comme chaque année, à la mi-octobre, les 5 académies se réunissent sous la coupole de l'Institut de France, situé quai de Conti à Paris, pour une cérémonie de rentrée. Les délégués de chaque académie réaliseront un discours autour du thème « Les limites », vu sous le prisme de leur discipline. La séance sera présidée par la réalisatrice Colline Serrault, qui a eu cette année la fonction de présidente de l'Institut de France, une charge tournante, en plus de celle de présidente de l'Académie des Beaux-Arts, créée le 25 octobre. octobre 1795, l'Institut de France participe depuis 230 ans au rayonnement et au perfectionnement du savoir grâce à l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.